allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui, cap sur la Guyane, et plus exactement, cap sur Kourou. Désolé pour les passionnés d'exploration spatiale, ce n'est pas à un voyage interstellaire que nous vous convions, mais à un voyage dans le temps. C'est sur la base de lancement de la fusée Ariane 6 qu'un consortium international de paléontologues, de géologues et de biologistes a eu l'idée de creuser. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu du nez. Entre 2017 et 2021, les scientifiques, coordonnés par l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, a mis au jour des dizaines de milliers de fossiles couvrant une période de 130 000 ans. Une découverte qui nous renseigne d'abord sur la biodiversité animale et végétale de cette Guyane du Pléistocène, mais pas uniquement. Le voyage dans le temps dont je vous ai parlé est à prendre dans ces deux occurrences, car cet assemblage de fossiles nous en dit également beaucoup sur le climat de la Terre passée et à venir. En fin d'émission, nous vous proposerons de découvrir l'UMLU, la version audio du magazine Sciences et Sociétés de l'Université, et pour cette première, on vous parlera sanglier. Notre invité est chercheur paléontologue à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui a coordonné cette étude. Il signe dans la revue Proceedings of the National Academy of Science of the USA l'article auquel nous nous intéressons aujourd'hui et que vous retrouverez comme chaque semaine sur la page de notre émission. Pierre-Olivier Antoine, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Elle garde sous ses ongles les traces fossiles de 10 dernières années à l'université. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Pierre-Olivier Antoine, on va commencer par situer un peu cette découverte. On l'a dit en introduction, ces fossiles ont été mis au jour à Kourou, sur le site de lancement de la fusée Ariane. C'est pas commun. Donc c'est une découverte fortuite ou bien des indices vous ont mis sur une piste? Comment ça s'est passé tout ça?
Alors en fait, c'est carrément sous la rampe de lancement d'Ariane 6, qui n'est pas encore partie. Et c'est les travaux titanesques qui ont été entrepris pour pouvoir faire bétonner cette rampe de lancement qui ont paradoxalement mis au jour les premiers fossiles de Guyane.
D'accord, et donc qui vous a donné envie d'aller voir plus loin, c'est ça?
Alors c'est plus que nous donner envie, c'est que depuis 7 ans maintenant, on travaillait à essayer de débloquer les compteurs de la paléontologie guyanaise sans succès. Et ce sont ces travaux qui ont permis de mettre au jour ces premiers fossiles qui se sont instantanément avérés du plus grand intérêt.
Alors, vous parlez dans votre publication d'assemblage de fossiles. C'est quoi un assemblage?
Alors, un assemblage de fossiles, c'est ce qu'on pourrait appeler une faune ou une flore, mais qui inclut à la fois des animaux, faune, et des plantes, flore. Et tous ne vivent pas au même endroit, si ce n'est au même moment. C'est-à-dire que là, ces assemblages, c'est plusieurs centaines d'espèces qui nous donnent une instantanée de la vie locale, mais à la fois dans la mer et à proximité.
Alors là, vous parlez de 270 espèces, donc végétales, animales et de micro-organismes. Dans toutes ces espèces, on les connaissait toutes ou il y en avait qu'on ne connaissait pas déjà?
Alors la particularité de ces assemblages, justement, qui couvrent les 130 derniers milliers d'années, c'est qu'ils sont composés de 270 espèces, jusqu'à présent reconnues. Toutes sont des espèces actuellement connues. Donc il n'y a rien de nouveau en soi. Et en fait, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on ne s'attendait pas à les trouver, ces espèces-là, aussitôt. Et pour une quarantaine d'entre elles, c'est la première fois que des spécimens de ces espèces actuelles sont reconnus à l'état fossile.
Alors, on parle de plusieurs milliers de fossiles, comme l'a dit Aline. Une découverte pareille en Guyane, on sait que l'environnement guyanais est particulier, c'est commun?
Alors, c'est tellement peu commun que c'est la première découverte de ce genre-là. En fait, le registre fossile de Guyane, donc l'ensemble des fossiles découverts en Guyane, étaient jusqu'alors résumés, restreints à un bloc d'ambre, de copal même, plusieurs centaines d'années seulement, avec des termites dedans. C'est tout. Aucun fossile connu, si ce n'est, ce qui n'est pas encore paru non plus, donc ce n'est pas encore officiel, le paresseux géant qui a été découvert par des orpailleurs et pour lequel j'étais venu dans cette excellente émission intervenir en 2021.
Alors cette fois-ci, vous avez creusé jusqu'à quelle profondeur pour remonter donc cet assemblage ?
Alors, pour être tout à fait exact, on a été très pragmatique sur le coup et c'est des pelleteuses qui ont creusé jusqu'à 5 à 6 mètres de profondeur. Et ces pelleteuses, en 2019, nous ont permis d'atteindre les couches les plus anciennes, à 130 000 ans. Ces couches les plus anciennes, elles recouvrent directement des couches bien, bien plus anciennes qui ont plus de 2 milliards d'années. Et il y a une lacune, donc il n'y a pas d'enregistrement sédimentaire, pas de roches et donc pas de fossiles, dans tout cet intervalle temporel entre 2 milliards d'années et 130 000 ans.
On l'explique, ça ? Comment...
C'est la Guyane. D'accord. En fait, c'est ce qu'on appelle le bouclier guyanais. Ce bouclier guyanais, c'est un ensemble de roches qui sont à l'affleurement, donc qui sont émergées et qui forment le haut topographique des Guyanes depuis plus de 2 milliards d'années.
Alors, parmi tous ces fossiles que vous avez trouvés, il y avait aussi bien des espèces marines que des plantes ou des pollens. Du coup, pour se rendre compte, c'était sous la mer ou pas, la Guyane, à cette période ?
Alors, c'était sous la mer, mais sous une mer très peu profonde. On est vraiment en milieu côtier. On est à 3 à 5 mètres de profondeur. Et plus exactement, c'est un milieu de mangrove. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'interface entre le milieu marin et le milieu continental, avec bien évidemment, comme toujours à l'interface, des éléments majoritaires de la mer, mais aussi des apports périodiques du continent avec quelques espèces de poissons d'eau douce et puis ce pollen, ces charbons de végétaux du continent.
Et on sait quand est-ce que la mer s'est retirée ? On peut le dater, ça, à quel moment la mer...
En fait, avant l'analyse et cette découverte, on ne le savait pas précisément pour la Guyane, mais un des intérêts de nos travaux, c'est qu'ils permettent de préciser que le retrait s'est opéré dès 110 000 ans, pardon. Donc très peu de temps après les dépôts très fossilifères avec ces dépôts de mangroves, très peu de temps plus ensuite, la mer se retire, l'océan plus exactement, c'est l'océan Atlantique qui se retire, et on sait qu'il va se retirer pratiquement jusqu'à 300 km de là, en dénudant ce qu'on appelle le plateau continental des Guyanes.
Alors ces fossiles, une fois qu'on les a déterrés, on s'en doute, il faut les analyser, les étudier. Quel examen vous leur faites passer prioritairement ? On les date, j'imagine, d'abord.
Alors ces fossiles, en fait, ils sont d'abord extraits à coups de godets par une pelleteuse géante sur le chantier d'Ariane 6. Ces godets, on va les mettre en sac, enfin ces godets de terre, cette argile riche en fossiles, on la met en sac. Et ces sacs, on va d'abord sur place les laver et les tamiser. Donc on va, dans une première opération... laver et tamiser plus de 500 kg de sédiments. C'est ce qui nous permet de concentrer les fossiles. Les fossiles, ensuite, on les sèche et on les examine à la binoculaire, 5 grammes par 5 grammes. Ça, c'est pour l'opération en 2019. Et on a refait la même chose en 2021 dans un autre endroit à 600 mètres de là, un autre endroit sur l'emprise, du Centre spatial guyanais, pour arriver à obtenir d'autres fossiles. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, ces fossiles, on les a effectivement ramenés à Montpellier, dans un premier temps, pour les trier, les coquillages d'un côté, les oursins de l'autre, les crabes d'un autre troisième côté, les poissons, les coraux. Donc tout cet assemblage-là, on va finalement le dissocier pour en faire des petits lots cohérents. Et ces petits lots cohérents, je me suis chargé de les envoyer à tous les spécialistes mondiaux de ces organismes-là, qui n'en attendaient pas tant, parce que pour certains, ils attendaient depuis 20 ou 30 ans d'avoir une telle occasion.
Vous avez fait des heureux, alors j'imagine.
Très 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 heureux, c'est ces collègues qui ont reçu des collections assez fantastiques. Certains spécimens avaient gardé leur couleur, notamment. La préservation, elle est magnifique, et c'est... un endroit au monde où il n'y avait pas de fossiles. À 1000 km plus au nord, pas de fossiles. Et sur les 3000 km plus au sud, sur la côte atlantique, pas de fossiles non plus de cette époque-là.
Alors si on revient sur la datation, cet assemblage fossile dont vous parlez, donc il couvre 130 000 ans, c'est-à-dire qu'on part de la surface à l'heure actuelle et en creusant, on remonte le temps et jusqu'au plus vieux fossile ancien de 130 000 ans. Est-ce que ça vous renseigne sur l'évolution des espèces animales ou végétales pendant toute cette période-là ?
Alors pour une fois, et en tant que membre de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, ça m'écorche presque la bouche de le dire, on va pas trop parler d'évolution des espèces, puisque ce sont des espèces actuelles, mais on va parler surtout de l'évolution des paysages et des environnements. C'est là-dessus surtout que l'article nous renseigne. En fait, on a daté ces sédiments par plusieurs méthodes pour que ce soit corrélé, que ce soit corroboré et que ce soit inattaquable. On les a datés à partir de l'analyse des grains de quartz contenus dans les roches par une méthode qui s'appelle l'OSL. C'est la luminescence stimulée optiquement. Ne me demandez pas de détails dessus. On a également daté, ça c'est un grenoblois, Pierre Valla, qui l'a fait. Ensuite, on a daté les fossiles, les coraux, par une méthode l'uranium-thorium, donc c'est une méthode radioisotopique. C'est un collègue australien qui l'a fait, Renaud Johannes Boyau. Et un autre collègue a utilisé la même méthode, mais sur d'autres bases et sur d'autres machines, à partir des mollusques et des coraux aussi. Il s'appelle Jan Fitzke et il est en Allemagne. Et donc, ils ont obtenu des datations à 130 000 ans. Ça, c'est pour les plus anciens. Et ensuite, pour les dépôts un peu plus récents, on a utilisé la même méthode, OSL, sur des sables, et ce que les auditeurs et auditrices connaissent probablement, les méthodes de radiocarbone ou carbone 14 pour les âges de moins de 50 000 ans. Et là, c'est pour la partie supérieure que de l'enregistrement que ces datations ont été effectuées.
Alors, juste quand vous dites on parle pas d'évolution, ça veut dire qu'en 130 000 ans, les moules et les huîtres, par exemple, elles ont pas, y a pas de changement, elles n'ont pas évolué.
Alors la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, à 130 000 ans, on a des dépôts marins, donc on a des huîtres, des moules et d'autres organismes qu'on va retrouver à peu près sous la même forme aujourd'hui. Mais ensuite, la mer se retire et donc on n'a plus dans cet enregistrement d'organismes marins et c'est en lieu et place des organismes terrestres et en particulier des plantes qui vont être enregistrées. Et pour ces plantes, on n'a pas d'éléments qui permettent de concevoir une évolution, si ce n'est une évolution de l'environnement dans lequel ces plantes vivaient.
Alors 130 000 ans, ça ne parle pas à tout le monde. Sur l'échelle humaine, on se situe où 130 000 ans? Est-ce que par exemple là en Guyane, il y avait déjà des humains?
Alors à l'échelle du globe, Homo sapiens, notre espèce, existait déjà il y a 130 000 ans et avait commencé son périple qui allait la mener à peu près sous toutes les latitudes et sur tous les continents. Presque sous tous les continents, puisqu'à 130 000 ans, il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, de traces d'activité humaine en Amérique du Sud. Et évidemment, la Guyane ne fait pas exception.
Alors, vous avez trouvé par exemple des traces de charbon de bois, c'est pas un indice de présence humaine dans ce cas-là?
Alors, les charbons de bois, c'est en premier lieu un indice de la présence de bois, évidemment, et un indice de la présence, la plupart du temps, de carbonisation, donc potentiellement d'incendie. Et effectivement, on a trouvé un niveau qui est à peu près 90 à 100 000 ans et qui témoigne de la présence de grands incendies. Ces grands incendies, ce sont des incendies de savane qu'on va retrouver de manière tout à fait naturelle. Il suffit qu'il y ait un orage électrique et un de la foudre qui tombe et la savane prend feu. Et les charbons, qu'ils soient de très très fins de graminées ou des charbons plus grossiers, des charbons de bois, vont être ensuite transportés par l'eau dès le prochain orage et ils vont s'accumuler dans des cuvettes. Ces cuvettes, on en a enregistré une dans la fosse de 2021 à Kourou.
Mais alors ça veut dire, quand vous parlez de ces charbons de bois, c'est-à-dire des années après, on est capable de faire la différence entre un charbon qui vient d'un incendie, enfin, ou d'un feu qui serait d'origine humaine, et d'un charbon qui proviendrait d'un méga-feu d'origine naturelle?
Alors c'est très difficile à faire ou à dire, notamment pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste des charbons, mais effectivement, il y a des spécialistes qui sont capables de faire la différence. Et là, en tous les cas, l'équipe, le consortium d'une trentaine de chercheurs et de chercheuses, inclut une spécialiste qui, elle, est capable d'identifier les charbons. C'est-à-dire qu'on lui donne un morceau de charbon qui fait plus de 4 mm sur 4 sur 4, et elle est capable de vous dire à quelle espèce ça appartient. Elle l'a fait pendant sa thèse, elle s'appelle Stéphanie Baudin. Elle est absolument géniale pour ça, et dans le cadre de l'équipe, elle a été d'un apport colossal, puisqu'elle est autrice de la Première clé d'identification des charbons des bois de Guyane.
Incroyable. Alors, cet assemblage de fossiles, il démontre aussi une très forte affinité entre les eaux côtières des Caraïbes et de la Guyane. Alors, ce n'est pas la première fois que vous montrez des correspondances justement entre la faune de ces deux zones. On vous a entendu à propos des rongeurs, par exemple. Alors, les Caraïbes et la Guyane, ça se trouve à quelle distance pour qu'on se rende compte? Et est-ce qu'il y avait une géographie identique il y a 130 000 ans?
Alors, les Caraïbes, en tout cas les Antilles... Les Antilles, c'est ce chapelet d'îles qu'on va avoir en plein Atlantique et qui vient border l'est de la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes, elle inclut aussi la Colombie, l'Amérique centrale, et elle remonte jusqu'au Mexique et elle baigne même la Floride. Cette mer des Caraïbes, elle a une existence qu'on connaît depuis des millions d'années. Et pour en revenir à votre question, les îles des Antilles, elles sont à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres, un peu plus de 1000 kilomètres de distance de la Guyane. Et la configuration à l'époque, elle est à peu près la même. Il y a 130 000 ans, il y a très très peu de mouvements tectoniques. La seule chose qui change entre-temps, c'est la configuration de l'océan lui-même. En fait, entre-temps, il y a eu une grande glaciation, une des plus fortes glaciations du Pléistocène. C'est celle qu'on appelle la dernière glaciation, dont nous sommes sortis il y a un peu plus de 12 000 ans. Aujourd'hui, on est pendant une ère interglaciaire, une phase interglaciaire de réchauffement. Ça, je ne l'apprendrai à personne. Et entre-temps, donc, cette glaciation a conduit au retrait de l'océan qui est en relation avec la mobilisation ou l'immobilisation de la glace sur les pôles et dans des glaciers continentaux. Donc il y a eu pas mal de changements dans la géographie sans que la tectonique soit à l'origine de ces changements.
Mais alors, quand vous parlez d'affinité à ce niveau-là, est-ce que ça veut dire que les espèces marines à ces deux endroits différents, elles étaient les mêmes à ce moment-là ?
Alors, plus exactement, c'est un petit peu compliqué de l'expliquer, mais en fait, ce qu'on a regardé, c'est pour la faune de mollusques de courroux d'il y a 130 000 ans, les affinités qu'elles pouvaient avoir avec plusieurs zones géographiques différentes de l'Atlantique actuelle. On a comparé avec le sud du Brésil, le nord du Brésil, les Caraïbes, les Antilles et la Guyane. Et on se rend compte que la plus forte affinité, elle va être avec la Guyane et les Caraïbes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, la faune de mollusques de Guyane, elle est très très différente de celle des Caraïbes
actuellement.
Pour une raison très très simple, c'est qu'il y a un courant marin, mais d'origine d'eau douce, qui s'appelle le courant amazonien ou le plume amazonien. Ce plume amazonien, c'est un énorme courant rempli de boue et d'eau moins salée, puisque ça provient de l'eau douce, et qui vient lécher les côtes guyanaises en remontant vers le nord-ouest, et ensuite qui va se dégager avant le Venezuela et avant d'arriver aux Caraïbes. Et donc ce courant-là, il empêche tout un tas d'animaux marins qui ont peu de capacité à la dispersion, qui ont des capacités ou des préférences écologiques très marquées. Il va les empêcher de se mélanger avec la faune très très d'eau claire et chaude des Caraïbes. Et ça, en fait, ce que le papier démontre à partir de la composition beaucoup plus proche de celle actuelle des Caraïbes, c'est que vraisemblablement ce courant était beaucoup moins puissant, ou en tout cas il jouait un rôle beaucoup moins fort qu'il ne le joue aujourd'hui.
Alors, un autre intérêt majeur de cette découverte, on va le voir, c'est les informations qu'elle vous donne sur le climat. Alors le rapport, il n'est pas si évident, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment de manière générale un fossile peut donner des renseignements sur le climat ?
Alors un fossile donne rarement des informations très précises sur le climat. Mais quand on a des millions de fossiles qui appartiennent à plusieurs centaines d'espèces, et qu'ensuite on a une séquence de ces fossiles dans le temps pour une unité de lieu, alors là on peut avoir une idée de l'évolution du climat, une évolution locale. Donc cette évolution locale, elle est souvent liée à une évolution plus régionale, voire à une évolution globale. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a enregistré à Kourou, sur ces 130 derniers milliers d'années, c'est le dernier épisode interglaciaire, il y a 125 000 ans à peu près, avec la faune et la flore marine. C'est à peu près l'analogue de ce qui se passe aujourd'hui. Et entre-temps, l'océan se retire, il ne fait guère plus froid, parce qu'on est sous l'équateur, et que pendant une période glaciaire, la température descend très peu sous l'équateur. Elle va beaucoup varier au niveau des pôles, mais pas au niveau de l'équateur. Ce qui va changer, c'est en particulier le montant des précipitations. Donc on va avoir des milieux qui sont beaucoup plus secs. Ces milieux, ils sont beaucoup plus secs et on peut les reconnaître à partir de la nature et de la composition de ce qu'on appelle les spectres polliniques, c'est-à-dire le pollen. Le pollen, avec 70 ou 80 espèces présentes, nous permet d'avoir un aperçu extrêmement précis de la végétation de l'époque. Et cette végétation, c'est une végétation de savane, une savane sèche, bordée par un petit peu de forêt-galerie, c'est-à-dire une forêt qui est juste au bord des ruisseaux.
Alors, vous l'avez dit, là, vous parliez du climat du dernier intervalle interglaciaire, et là, vous nous dites que ça ressemble un peu au climat qu'on connaît actuellement. Dans la publication, vous allez même plus loin, vous êtes plus précis, vous dites que c'est le climat qu'on risque de connaître, selon les prévisions du changement climatique, en 2100. On est capable d'être aussi précis sur une datation, de dire que le climat qu'il y avait à cette époque-là, c'est pas exactement celui de maintenant, mais celui qui est prévu à quelques degrés de près dans une dizaine d'années, quelques dizaines d'années?
Alors, on peut être effectivement assez précis, pas seulement à partir de notre analyse, qui n'est finalement que un point, donc une zone focale sur laquelle on a travaillé. Mais notre analyse et notre réflexion, elle est alimentée par tout le corpus de données qui sont disponibles sur la période et à l'échelle du globe. Et ça, c'est cette époque-là, elle est particulièrement scrutée parce qu'il y a 130 000 ans, on est à un maximum interglaciaire, à une période où il fait plus chaud qu'aujourd'hui, de 2 à 4 degrés à l'échelle du globe. En tout cas, c'est ce que disent les enregistrements sur des tests, donc des coquilles de petits micro-organismes marins, qu'on appelle les foraminifères. Et on pense que le niveau de l'océan global était à 4 à 6 mètres au-dessus d'aujourd'hui, ce qui est parfaitement confirmé, autant pour les températures que pour le niveau de l'océan, par notre enregistrement sous l'équateur. Et je vous rappelle, c'est le premier enregistrement qui est disponible pour cette époque-là à l'échelle de l'Atlantique tropical équatorial. C'est la toute première fois. Et donc ça vient confirmer cela. Et ça nous montre que les mêmes espèces qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Atlantique tropical, existaient à l'époque. Donc ça, c'est très très chouette. Ça nous montre que finalement, il y a peu de changements. Alors même qu'il y a eu un grand bouleversement entre-temps avec ce retrait de l'océan et cette glaciation très très forte. La seule chose qui a changé entre-temps, c'est l'arrivée de l'homme. Et il se trouve que une trentaine des espèces qu'on a découvertes et qui montrent une abondance et un grand nombre d'individus à l'époque, ces espèces-là, pour la plupart d'entre elles sont en grand danger d'extinction. Et ça, c'est le cas pratiquement pour tous les requins qu'on a découvert. Alors on a découvert un requin qui s'appelle le requin aiguille, il est connu encore aujourd'hui, il est en danger extrême d'extinction, on estime sa population à 50 individus dans le monde. Il est endémique de la région guyanaise. On a en 2 jours sur place ou 3 jours sur place récolté suffisamment de dents pour estimer qu'on a à peu près 30 individus.
Quasiment la population mondiale actuelle.
Voilà, donc ça, on peut dire que l'analogie climatique, elle est là, et le seul paramètre qui a changé entre-temps, c'est l'homme. Donc on sait très bien que c'est la surpêche qui est responsable de cette baisse démographique. Rien d'autre, c'est pas les changements climatiques.
Ça donne un autre éclairage alors sur les décennies à venir, justement. On parle beaucoup d'extinction de masse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous apprend? Donc justement, c'est finalement l'homme qui est bien plus responsable alors de ces extinctions de masse que le changement climatique alors? On peut aller jusque-là?
On peut aller jusque-là sur ce cas précis qui nous montre que on a beau, à l'époque, être avec un globe ou avoir une terre qui est plus chaude qu'aujourd'hui, il y a de la biodiversité. Parce qu'une question se pose effectivement de savoir si avec une température plus chaude à l'endroit le plus chaud du globe, puisqu'on est sous l'équateur. On est à l'endroit où finalement il y a le moins de variations entre un stade glaciaire et un stade interglaciaire. C'est l'endroit qui est le plus ensoleillé, c'est l'endroit où l'eau est la plus chaude. Et à l'époque, il semble y avoir une grande diversité d'organismes. Or, la plupart des modèles écologiques indiquent ce qu'on appelle une déplétion équatoriale. Alors, pas une dépression équatoriale.
Déplétion.
Cette déplétion, c'est un modèle selon lequel... peut-être connaissez-vous le concept de gradient latitudinal de biodiversité. Oui. Alors, ce gradient latitudinal de biodiversité, c'est quelque chose qu'on enseigne à l'université, hein, à Montpellier notamment, et qui indique que c'est sous l'équateur qu'on va avoir le plus de biodiversité pour un groupe donné, et au fur et à mesure, cette biodiversité va s'effilocher jusqu'à une biodiversité minime pour ce groupe-là, au niveau des pôles. Ça, c'est un gradient latitudinal, selon la latitude, de biodiversité. Or, ce qui est modélisé et qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a une réduction de la biodiversité au niveau de l'équateur quand il fait trop chaud. Dans ce cas-là, les organismes vont avoir une diversité plus grande vers les tropiques. Et donc on va avoir ce qu'on appelle, là aussi, une distribution bimodale. On va avoir un maximum au tropique du Cancer, un maximum au tropique du Capricorne et plusieurs minimums au pôle, bien évidemment, avec une dépression ou une déplétion équatoriale au niveau de l'équateur. Et là, nos données, elles sont en train, en tout cas, les données préliminaires telles qu'on peut les avoir analysées sur les mollusques, nous indiquent le contraire. Nous indiquent qu'à une période qui était plus chaude qu'aujourd'hui, on avait tout autant de diversité de mollusques. Et c'est un groupe qui est extrêmement bien connu du point de vue du registre fossile. Donc, il y a un paramètre qui change entre il y a 130 000 ans et aujourd'hui, je le répète, c'est l'homme. Donc ça veut dire que très vraisemblablement, l'anomalie, elle n'est pas à l'époque. À l'époque, très probablement, les organismes arrivent à s'en sortir, même si la température est plus chaude. Ils se sont adaptés. Ils ont tout un tas d'autres éléments, autres que... la température, qui vont forcer leur distribution. Par contre, si aujourd'hui il y en a très peu d'organismes dans cette zone équatoriale quand il fait très chaud, c'est parce qu'il y a un paramètre qui a changé. Ce paramètre qui a changé, c'est l'arrivée de l'homme et son influence, ce qu'on appelle son empreinte, ou l'empreinte anthropogénique ou anthropique sur les environnements.
Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Un grand merci Pierre-Olivier Antoine.
Merci beaucoup.
Le sanglier de la discorde. Avec 17 millions d'hectares boisés, la forêt française atteint de nouveau sa superficie précédant les défrichements médiévaux. Un espace vital en pleine expansion, arpenté par plus de 1,5 million de sangliers qui en repoussent les frontières. Un voisinage parfois source de tensions.
L'augmentation des densités de sangliers est associée à une recrudescence des dégâts agricoles, à des collisions routières croissantes et souvent à des conflits entre chasseurs, agriculteurs, gestionnaires d'espaces protégés et autres usagers des territoires ruraux et périurbains.
Explique Raphaël Madvet, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Comment permettre à tous ces acteurs de s'accorder pour trouver une juste place aux sangliers? Pour fluidifier cette cohabitation, Simon Chamaillet et Raphaël Madvet ont coordonné un projet consacré à la gestion intégrée de cet animal.
Mieux comprendre la biologie, les mœurs et les habitudes des animaux, mais aussi les interdépendances fonctionnelles, économiques, sociales et écologiques des territoires concernés est indispensable pour créer une dynamique collaborative.
Les chercheurs ont posé leurs valises, emplies de colliers GPS et de pièges photographiques, dans les gorges du Gardon et le parc national des Écrins pour étudier les déplacements des sangliers. Leur objectif ? Obtenir des données factuelles sur la façon dont l'animal utilise l'espace et vérifier ainsi si les espaces protégés, où la chasse est interdite, leur servent de refuge. Mais aussi aller à la rencontre des habitants pour partager avec eux ces données et leur permettre de mieux connaître le sanglier.
L'enjeu de communication est colossal. C'est aussi un vrai projet de médiation scientifique et sociale.
Confient les chercheurs qui ont développé pour l'occasion un jeu sérieux proposant par exemple aux chasseurs d'être une population de sangliers.
Cela leur permet d'adopter le point de vue de l'animal pour réfléchir aux effets de leur pratique.
des méthodes que les scientifiques transposent aujourd'hui en milieu urbain dans le cadre d'un projet avec les métropoles de Montpellier et de Nîmes, afin de mieux cerner les déplacements du sanglier en ville, mais aussi de mieux comprendre les relations que les citadins entretiennent avec ces animaux qui fréquentent de plus en plus les friches urbaines, parcs et jardins.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.